Coucou les French learners! Aujourd'hui, c'est une pause café très très spéciale parce que j'ai invité la personne derrière l'organisation de notre semaine à Pau, de notre semaine incroyable à Pau, et il se trouve que c'est aussi ma sœur. Donc, c'est vraiment une pause café très spéciale. C'est parti.
anisayal.com pour acquérir le français naturellement.
Alors, bonjour Astrid. Je suis
Bonjour.
vraiment très contente de t'avoir dans notre pause café. Est-ce que tu peux te présenter, Astrid, à la communauté des French Learners?
Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup pour l'invitation d'abord, Alice. Donc, je m'appelle Astrid, je suis la petite sœur d'Alice. Je suis une maman aussi, comme Alice, j'ai 3 enfants. Et comme Alice, j'ai grandi à Paris, dans le 7e arrondissement. Et ensuite, quand j'avais 15 ans, j'ai aussi suivi les pas de ma sœur. Et je suis allée vivre en Espagne, ne sachant aucun espagnol, puisque à l'école, j'avais appris l'anglais et l'allemand. Mais très vite, en immersion totale, donc en suivant la technique d'Alice Ayel, j'ai commencé à comprendre et ensuite j'ai parlé naturellement. Et puis ensuite, toujours, j'ai un peu en fait suivi ce que ma sœur faisait. Donc je suis partie faire la fac. Donc je suis allée à l'université en Écosse, à Aberdeen. Et là, je savais quand même un peu d'anglais puisque j'avais appris l'anglais à l'école, au collège. Même ma meilleure amie, sa maman est anglaise. Mais quand même, je me suis un peu retrouvée à apprendre de zéro. Surtout, j'avais beaucoup de problèmes à comprendre les différents accents. L'accent écossais, mais aussi, par exemple, je me rappelle, j'avais un ami de Liverpool. Je crois que j'ai mis 3 ans à le comprendre.
3 ans, ouais.
voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie au Brésil. Pendant 6 mois, j'ai travaillé dans un orphelinat près de Rio. Et là encore, immersion totale. Donc l'espagnol est quand même proche du portugais, mais je ne comprenais pas quand les gens parlaient au début. Je comprenais assez bien l'écrit, pas quand on me parlait. Et voilà, j'ai appris le portugais du Brésil. Et ensuite, je suis revenue au Royaume-Uni et là, j'ai commencé à travailler à Londres et j'ai connu mon mari qui est donc anglais. Et je suis restée un peu là. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon travail. Donc, je travaillais pour un fournisseur des Nations Unies pour des matériaux d'élection. Donc pour les élections qui se passent dans des zones de post-conflit, les Nations Unies organisent ces élections. Et donc j'ai travaillé en Chine pour suivre les usines qui produisaient nos produits. Ensuite, nous sommes allés en Afrique du Sud. Avec mon mari, enfin c'était pas mon mari à l'époque, mon petit copain, qui faisait ses études de master à Cape Town, au Cap, en Afrique du Sud. Et ensuite, nous sommes revenus en Angleterre et nous sommes restés en Angleterre à Londres pendant à peu près 10 ans. Donc, nous avons eu nos deux premiers enfants à Londres. Et ensuite, pendant le Covid, je suis rentrée en France, à Pau. Donc,
Donc,
longue introduction.
ouais, et puis tu as beaucoup, beaucoup voyagé.
Oui.
Je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sont impressionnés par tous tes voyages et toutes les langues que tu as acquises. Est-ce que tu as acquis un peu de chinois d'ailleurs en Chine?
Alors, en Chine, donc j'avais en fait étudié le chinois pendant un an à Paris quand j'avais 15 ans. Donc j'avais un peu appris à écrire, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, la calligraphie chinoise, et aussi parler. J'avais une prof chinoise et à l'époque, la Chine, c'était pas comme maintenant. Donc, les années 97, je pense que j'ai commencé à apprendre le chinois. Et je me rappelle d'ailleurs que dans mes cours de géographie, la Chine était vue comme un pays sous-développé. Et donc, voilà, la Chine était en plein essor à ce moment-là. Et c'était assez rare d'étudier le chinois, disons. Et quand je suis allée en Chine, quand même, il y avait des. Donc, en fait, au début, je pense, dans une acquisition d'une langue, tout se ressemble. Et je dois dire qu'à la fin, donc, je crois que là, je suis restée pendant un mois en Chine. Et à la fin, je comprenais où étaient les mots, phrases. Et il y a certains, par exemple, les numéros, parce que. On parlait beaucoup de chiffres dans le business, enfin dans le travail. Et donc, les chiffres, j'avais commencé à apprendre. Mais bien sûr, c'était pas assez long.
Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis sur le processus d'acquisition, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas du tout la langue, on a l'impression d'écouter un bruit, quoi, ce qu'on appelle un
Oui,
bruit,
voilà.
juste du bruit. Après, on commence à séparer, à reconnaître les mots, à séparer les mots dans la phrase. Et après, on commence à comprendre.
Oui, voilà, donc
Ça.
et à identifier les mots qu'on connaît
Voilà,
dans la phrase. Par
exactement.
exemple, en chinois, la formule de négation, ça commence par bou, et là, je reconnaissais quand c'était une négation.
Voilà.
Au début, c'est vrai que c'était oui, comme un nuage de mots, de sons.
Et il y a aussi le phénomène que le chinois est vraiment une langue complètement différente de nos langues latines.
Oui,
Donc,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots où on peut se rattraper
exactement, on peut
pour
se
la.
raccrocher.
Oui, voilà, on ne peut pas se raccrocher. C'est pour ça que peut-être je me raccrochais justement à la formule de négation. Ça, je connais. C'est un mot que je connais. Mais
C'est
oui.
ça. Parce que je me souviens que pour l'espagnol, par exemple, au début, oui, je ne comprenais rien, c'était des bruits. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre aussi parce que je pouvais me raccrocher au français, parce que c'est, il y a des mots similaires. Et par exemple, je me rappelle qu'il disait toujours fouet, il est allé. Et en fait, fouet en français, c'est le passé simple, il fut. Donc j'arrivais à faire des associations comme ça.
Oui.
C'est très intéressant ça. Et donc je voulais dire aussi que ton mari, Anton, est membre de notre communauté. Il est en
Oui.
train d'acquérir le français, n'est-ce pas,
Oui.
Astrid?
Il adore tes cours. Et souvent, je ne sais pas ce qu'il fait et je vais dans le bureau et il est en train d'écouter les cours d'Alice. Voilà. Donc il est très motivé. C'est vrai que entre nous, on parle anglais. On n'a pas réussi à changer notre langage
Oui.
de communication, même si on a essayé.
Mais c'est parce que vous vous êtes connu en Angleterre, n'est-ce pas? Donc vous avez commencé à parler en anglais.
Oui.
C'est ça. Moi, c'était un peu la même chose avec mes amies danoises que j'ai rencontrées en Angleterre. J'ai vécu en Angleterre avec elles. Après, mon amie danoise Clara, que d'ailleurs j'ai interviewée, j'ai interrogée dans la. Nous avons une conversation dans une pause café. Vous pouvez aller voir cette pause café avec Clara. Elle a appris le français aussi. Elle a acquis le français grâce à son. Parce qu'elle s'est mariée avec un français. Mais pour moi, c'est très bizarre de lui parler en français parce que j'ai toujours parlé en anglais avec elle, donc je comprends ta situation.
Oui, mais je sais qu'il y a des couples qui y arrivent.
Ah.
Je sais qu'il y a des... Oui,
Ils arrivent à faire les deux, ou ils
oui,
choisissent une
ils ont
langue.
commencé dans une langue et après ils ont réussi
À passer à
à parler
l'autre
dans
langue.
une autre. Oui.
Ah.
Mais moi, j'ai du mal. Et donc, oui, mais il est très motivé pour apprendre et il adore notamment les cours d'histoire, là, les nouveaux cours d'histoire de la France. Et d'ailleurs, mes filles aussi, des fois, veulent écouter des cours d'histoire, ce qui est très bien.
Oui, c'est la session, c'est l'étape adulte, l'adult stage sur notre site. C'est quand vous avez atteint un niveau intermédiaire avancé. Et donc, vous avez accès à des sessions sur l'histoire de France pour encore recevoir, continuer à recevoir de l'input riche, abondant, de l'input optimal, et pour aussi connaître l'histoire de France, la culture française, parce qu'une langue, ce n'est pas seulement un assemblage de mots, c'est aussi une culture. Une manière de penser, une manière de se comporter dans la société. Donc, je pense que c'est important aussi de connaître l'histoire, ce qui a fait la France pour comprendre comment est constituée la langue française.
Oui, et aussi lui, comme il aime beaucoup l'histoire de toute façon. Et c'est vrai que chaque pays a une version très différente de l'histoire. Et donc, voilà. Par exemple, la guerre de Cent Ans, avoir la version française des choses, enfin même à notre époque, les versions qu'on apprend à l'école de la guerre de Cent Ans sont très différentes en Angleterre. On va se concentrer sur les victoires du début de la guerre de Cent Ans, alors qu'en France, on va se concentrer sur après Jeanne d'Arc. Enfin,
Oui.
quand Jeanne d'Arc arrive,
Oui.
on commence à, on se concentre sur nos victoires à nous.
Bien sûr.
Donc voilà, il découvre plein de choses.
Et d'ailleurs, je ne parle pas de la guerre de Cent Ans. Je me suis concentrée sur le début de l'histoire de France et le Moyen Âge, mais le début du Moyen Âge. Et il y a l'histoire de Guillaume le Conquérant.
Voilà.
Et je pense que la version est très différente.
Oui.
Pour nous, c'est un peu un héros, mais je ne sais pas si pour les Anglais, c'est.
Pour les Anglais, enfin, il m'a dit, parce que nous avons toujours eu une discussion que les Normands,
Oui.
les Normands, c'est Normand. Bon. Et moi, je dis que quand même, les Normands, ils étaient un peu français. Ils
Oui.
parlaient français. Bon. Mais apparemment, il m'a dit que dans tes cours, tu disais bien que c'était des Normands.
Oui, parce que les Normands, la Normandie s'est séparée de la France. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que notre conversation, c'est sur toi. C'est aussi très intéressant donc que tes enfants, donc maintenant vous habitez à Pau. Et ma question aussi, c'était pourquoi est-ce que tu as choisi, vous avez choisi, après l'Angleterre, de venir en France?
Oui, alors, bon, le premier objectif, c'était de se rapprocher de nos parents. Donc, nos parents habitent à Pau. Donc, on voulait se rapprocher d'eux. Mais aussi, il y avait l'objectif linguistique d'apprendre pour mon mari d'apprendre le français. mais aussi pour mes filles. Donc, j'ai toujours parlé en français à mes filles depuis qu'elles sont nées. Mais quand nous étions en Angleterre, elles me répondaient en anglais. Donc, elles comprenaient le français. Enfin, oui, elles comprenaient le français parce qu'elles regardaient aussi des films en français. Donc, chaque opportunité que j'avais pour leur donner du français, je le faisais. D'ailleurs, Lucille a aussi pris des cours avec toi. Mais voilà, elles ne me parlaient pas français et elles avaient du mal à trouver leurs mots, à parler français. Donc, c'était l'opportunité parfaite pour qu'elles vraiment, voilà, apprennent le français, deviennent bilingues complètement.
Et ça, c'est aussi un phénomène très intéressant et assez curieux dans l'acquisition des langues. Il y a beaucoup de cas d'enfants comme ça, d'enfants bilingues, qui comprennent la langue, mais qui ne la parlent pas.
Je pense qu'il n'y avait pas de nécessité. Donc moi, j'ai demandé à ma fille, à Lucille, pourquoi tu ne me parles pas français? Et elle m'a dit, bah, tu parles anglais à papa. Donc, je crois que ce qu'elle voulait dire, c'est, je n'ai pas besoin de te parler français, tu comprends l'anglais. Donc, il n'y avait pas la nécessité de parler français.
Ouais. Donc c'est aussi très psychologique l'acquisition d'une langue, je pense. Et c'est vrai qu'il faut la nécessité. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, c'est la même chose. Qui me disent qu'elles sont en train d'acquérir le français, qu'elles comprennent, mais qu'elles n'arrivent pas à parler. Et comment
Oui,
passer cette étape?
Mais je pense, oui, je pense que ça, c'est naturel. C'est naturel, on comprend avant qu'on parle. D'ailleurs, bon, j'ai un petit garçon qui a 2 ans, il comprend tout, mais il parle que quelques mots. Donc, c'est normal, il faut pas se frustrer, et ça va venir.
Ça prend du temps. C'est
Oui.
toujours la même chose, c'est le temps aussi. Et comme on vit dans une époque d'immédiateté, on veut tout de suite des résultats, parfois on est un peu frustré.
Oui.
Et donc, vous êtes arrivé à Pau. Et c'est vrai que Pau est une ville magnifique parce qu'il y a les Pyrénées. Hein, on a la vue sur les Pyrénées. Dans le fond. C'est une ville qui est historique aussi. Il y a le château, il y a. Et c'est une ville pour moi qui est authentique. Je trouve que de nos jours, visiter les grandes villes, Paris, Londres, c'est devenu très touristique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Astrid. Et maintenant, moi, je préfère aller dans des petites villes qui sont plus authentiques pour moi.
Oui, c'est sûr que Pau, on dit que Pau, c'est une ville à taille humaine.
Voilà.
Voilà. Donc, c'est très agréable de se balader dans Pau. Voilà, il n'y a pas de stress, je dirais. C'est
Oui,
très
pour nous qui
agréable.
sommes parisiennes.
Voilà, il y a tout. Il y a un théâtre, il y a de la culture, il y a des magasins, il y a des cafés. Mais il n'y a pas le stress de la grande ville. Et aussi, comme tu le dis, la nature et le paysage est présent. Comme on voit les Pyrénées, on n'est pas loin de la nature. Il y a certaines villes où on voit que des immeubles. Là, ce n'est pas le cas de Pau. Et aussi, ce qu'on adore à Pau, c'est qu'on est à 1 heure des montagnes, à 1 heure de la mer. Et aussi très proche de l'Espagne.
Oui, ça c'est vrai que c'est aussi un point positif, c'est
Donc on
qu'on
est
peut.
à 1 heure et demie de San Sebastian, qui est une ville elle aussi très très belle et plus connue.
Oui, c'est vrai que Pau n'est peut-être pas une ville très connue comme par exemple Toulouse, parce que c'est une ville qui est plus petite que Toulouse. Mais c'est une ville qui, à mon avis, vaut le coup d'être visitée. Ça vaut la peine, ça vaut le coup d'aller voir Pau. Et il y a cette sensation encore de ville française, je trouve. Quand je disais authentique, moi, je trouve que maintenant, dans d'autres villes, c'est très cosmopolite. Bon, c'est bien, ça a des côtés positifs d'être cosmopolite, mais on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes
Oui.
magasins, les mêmes restaurants.
Bah, écoute, je suis allée à Paris là cet été dans le 7e arrondissement, donc là où on avait grandi. Et la plupart des cafés, c'est des brunchs, c'est des trucs qui sont bons, mais c'est pas le croissant
Oui.
et le café l'espresso quoi. Donc c'est vrai que à Pau, la culture française a été c'est très préservé.
C'est
C'est
ça.
vraiment la France.
Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi Pau. D'abord parce que toi, tu habites à Pau, donc tu pouvais organiser tout le côté comment logistique de la semaine à Pau, et aussi pour ce côté vraiment français, de ville française. Et donc, tu as superbement organisé cette semaine en octobre. C'était une semaine qui s'est vraiment passée parfaitement, hein, la semaine idéale, je trouve. D'ailleurs, tous les participants ont laissé des commentaires positifs.
Oui.
Et ce qu'on voulait, nous, hein, Astrid, notre objectif, c'était justement d'avoir une semaine vraiment authentique, n'est-ce pas? Et vraiment française dans l'esprit.
Oui, de faire découvrir la France, la culture française. Qui est peut-être une ville pas moins connue et pas sur enfin voilà pas touristique mais voilà vraiment pour que les participants vraiment puissent même se sentir un peu français, je crois, c'est ce qu'on voulait.
C'est ça, c'est ça, c'était l'objectif. Et je pense qu'on l'a atteint, cet objectif, bien que on ait commencé par un brunch, Astrid. Parce que tu as commencé par critiquer les brunchs.
Mais justement, on avait fait ça pour faire la transition. Voilà.
Voilà. Et c'est vrai que ce brunch est vraiment délicieux à Pau. Hein, ce restaurant Beans est très, très. C'est une association, je pense, anglo-française qui est très réussie. Et on a eu un très bon brunch dans un cadre aussi qui était très amical, très cosy.
Oui, c'était surtout rencontrer les participants, commencer à se connaître. C'était vraiment chouette.
Ouais, et c'était donc une transition parfaite, comme tu as dit, pour après rentrer dans dans la vie française, dans le monde français et se sentir un peu français. Et pour toi, Astrid, quels ont été les moments forts de cette semaine en octobre 2023?
Écoute, les moments forts, je crois pour moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment de connaître la communauté de French Learners, de parler aux participants qui venaient de beaucoup d'endroits différents aux États-Unis, avec des vies, des parcours de vie très différents. On avait aussi des Européens et notamment des Finlandais. Et je crois qu'un des moments forts, c'est quand donc les Finlandais se sont présentés, mais les Américains ne savaient pas que la Finlande était un pays. Donc,
Où ils
mais
n'avaient peut-être pas
ça rappelle, non
compris.
mais ça nous rappelle en fait la différence de culture, parce que moi, par exemple, si on me demande où est le Ohio ou
Oui.
sais pas.
Oui, ou
Je ne peux pas
l'Oklahoma,
savoir.
ou... oui.
Je ne peux pas savoir. Donc, ce n'est pas une critique des Américains du tout. C'est juste, voilà, la différence de. C'est vrai que nous, on est très baignés dans l'Europe. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris sur la Finlande pendant ce séjour,
Moi
parce que
aussi.
même si je sais où est le pays et que c'est un pays, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup la culture finlandaise, finnoise.
Oui, donc c'était aussi un échange de culture. On a appris beaucoup de choses en fait. Et ce qui était bien aussi, Astrid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un petit groupe, hein, il y avait 11 participants. C'est ce qu'on voulait. On voulait pas un grand groupe, on voulait garder un petit groupe pour vraiment bien se connaître et avoir le temps de parler individuellement ou en petit groupe, avoir le temps vraiment de se connaître et de parler.
Oui, voilà, donc ça, j'ai beaucoup apprécié, et aussi de voir le progrès des étudiants, leur progrès du début à la fin, de
Oui.
voir comment ils commençaient à comprendre. Donc, par exemple, quand tu parles du brunch, je me rappelle quand la serveuse demandait des questions, etc., il fallait quand même un peu aider, etc. Alors qu'à la fin du séjour, on a vraiment vu la différence. Voilà, les participants étaient plus confiants d'aller parler eux-mêmes aux Français. Et voilà, ça, c'était très chouette. Et puis aussi, ce que j'ai aimé, au point de vue des activités qu'on a fait, j'ai beaucoup aimé la visite du vignoble où on a créé nos propres vins. Et vraiment de voir la différence que ça fait en mélangeant un peu de vins différents, les différences que ça fait, vraiment apprendre le métier d'œnologue, ça s'appelle. Voilà.
Oui, ça c'était très intéressant, c'était fascinant de découvrir ce monde du vin. C'est vrai, c'était le dernier jour. Hein, le dernier jour s'est terminé en apothéose au vignoble. Et c'était un grand moment. Moi, j'ai beaucoup aimé les moments dans les qu'on a passé à manger, à déjeuner, parce que ça, c'est pour moi, c'est vraiment très français. Passer beaucoup de temps à manger et à boire et à parler. C'est très français ou aussi très latin parce que les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ils aiment aussi passer du temps à table. Mais c'est ça qu'on voulait aussi, hein. On voulait montrer, on voulait avoir ce moment, ces moments de déjeuner où on pouvait parler et aussi se régaler parce que tu nous as organisé une semaine de restaurant. Mais vraiment délicieux. Et en
Oui,
plus, on a expérimenté tous les types de restaurants, n'est-ce pas, Astrid?
c'est vrai que maintenant je suis habituée en France à bien manger dans les restaurants. Mais
Surtout
oui.
à Pau, je pense. À Pau, il y a vraiment une bonne, encore un bon rapport qualité-prix, je trouve.
Oui, et puis la gastronomie quand même du sud-ouest est quand
Oui.
même renommée dans la France.
Oui.
Oui, donc on avait organisé des repas dans des brasseries, dans des restaurants un peu plus, disons, des restaurants locaux pour des travailleurs y vont à midi. Hein, voilà.
Oui.
Mais aussi, j'avais organisé un repas dans un restaurant un peu plus classe, disons. Qui est très très bon.
Oui, ce restaurant
Original.
était très original. C'est vrai que c'était de la gastronomie, ce qu'on
Oui.
appelle la gastronomie française. Et ce restaurant, monsieur et madame, est tenu par un couple qui est franco-chinois. Donc c'était très intéressant la fusion de ces deux gastronomie, parce que c'est vrai que la cuisine chinoise est aussi une cuisine de très haute qualité, hein. Donc cette fusion chino-française ou franco-chinoise était très intéressante et délicieuse.
Oui,
Mais oui.
Non,
Mais
j'allais
quand...
dire que c'était difficile de choisir les restaurants parce qu'il y a tellement de bons
Ouais.
restaurants. C'est vrai que c'était difficile de faire les choix.
Oui. Mais comme tu as dit, on est aussi allé dans des restaurants qui sont des restaurants de tous les jours, enfin des brasseries, la
Ah.
brasserie typique, et le restaurant de la poule au pot, puisque la poule au pot, c'est le plat traditionnel typique de Pau, la poule au pot. Et là, donc, on a pu aussi expérimenter la cuisine de tous les jours, la bonne cuisine de la maman.
Voilà, c'est ça exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un peu une tradition française, enfin, c'est beaucoup une tradition française d'aller au restaurant à midi.
Oui.
Un sandwich, non, on va au restaurant et
Oui.
c'est un menu avec entrée, plat, dessert, café. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et où on ne va pas au restaurant, mais on rentre à la maison manger, mais
Et...
enfin, on ne mange pas, comme tu dis, un sandwich.
Non. Ou ne pas manger, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne mangent pas à midi. À Londres, c'est assez courant.
Mais en tous les cas, on voulait cette expérience de déjeuner. Là, on parle beaucoup de manger, on est très française. aussi, ce que j'ai aimé, ce sont bien sûr les sessions ensemble dans une salle que nous avions réservée. Et cette salle, en fait, qui était petite, était en réalité... Pour moi, au début, elle me semblait très petite, mais c'était super parce qu'on était ensemble dans une ambiance de conversation, pas de classe, tu sais, où on étudie. C'était
Oui.
plus une ambiance acquisition pour moi, une ambiance de converser en français, de bien rigoler, de bien rire ensemble.
Oui, effectivement, oui, parce que moi j'étais un peu en retrait pendant ce cours, mais j'entendais que des rires et voilà. Oui. C'était vraiment, je pense, des leçons. Voilà, il ne faut pas s'attendre pour... Enfin, on va en parler après pour Pau 2024. Mais voilà, les leçons, ce n'est pas, comme tu dis, retourner à l'école. Bon, de toute façon, ça suit ta philosophie de ton site et de tes leçons online.
Oui.
Mais c'est vrai que comme il y a un groupe et comme c'est en présentiel... Voilà, quand on éclate de rire, ça s'entend.
Et puis c'est contagieux le rire aussi, c'est vrai.
Voilà.
Et c'est vrai que toi, c'est vrai que tu n'as pas fait les sessions, tu étais un peu en retrait, mais pour revenir au restaurant au moment de déjeuner ou aussi ce que j'ai aimé aussi, c'est quand on terminait une activité l'après-midi, on allait boire un coup. Ça, c'est aussi très français. On allait dans un bar boire un coup. Et toi, tu étais là pour converser avec les gens. Donc ça, c'était vraiment super. Beaucoup de participants ont apprécié que tu sois là
Oui.
pour converser avec eux en français, parce que tu étais aussi à l'écoute, tu étais très patiente et ils ont beaucoup aimé ça.
Merci. Oui, mais moi aussi j'ai beaucoup aimé parler, comme je l'ai dit, avec eux. Donc voilà, je suis contente que c'était réciproque.
Et donc comme ça a tellement bien marché et que ça a été une si belle expérience, on a voulu recommencer, n'est-ce pas, Astrid, en juin 2024, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens, de membres de la communauté qui voulaient venir, mais c'était trop tard. On avait déjà 11 participants, on ne pouvait pas en prendre plus. Donc, pour laisser une chance à ses participants, enfin à ses potentiels participants, on a voulu recommencer l'expérience et on organise une nouvelle semaine du 17 au 21 juin 2024. Donc, qu'est-ce qu'on va... Bon, bien sûr, c'était parfait la semaine en octobre, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour cette semaine en juin, parce qu'on veut toujours faire mieux, N'est-ce
Oui,
pas, Astrid? Nous, on cherche la perfection.
bien sûr. Non, je pense que de toute façon, ce qu'on avait fait la dernière fois et ce qu'on va refaire cette fois-ci, c'est qu'on va demander aux participants un peu quels sont, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, leur donner certains choix d'activité. C'est vraiment faire un séjour personnalisé pour ce groupe de 10 personnes, parce que voilà, c'est ça qui est important. C'est vraiment de répondre aux besoins des participants. Maintenant, comme tu l'as dit, je crois que en fait, les participants viennent pour avoir des cours avec toi. Donc, je pense que peut-être on va vraiment mettre l'accent sur ça cette fois-ci. Et encore, je veux le répéter, c'est pas aller à l'école, c'est vraiment des leçons très très conviviales, très fun, quoi. Pas
Oui,
comment c'est, mais
très fun, oui. Ça, c'est un anglicisme, mais ça, ouais, très amusante, quoi.
voilà. Et aussi des moments, comme tu l'as dit, de conversation individuelle avec toi, avec moi, pour vraiment voilà, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'opportunités, le plus d'opportunités possible pour parler et écouter le français. Voilà.
Exactement. Je suis d'accord avec toi. On va avoir plus de sessions en français parce que c'est aussi ce que les participants de la semaine en octobre ont demandé. Ils ont dit qu'il n'y avait pas eu assez de sessions avec moi, donc on va mettre plus de sessions et plus d'opportunités toujours pour pouvoir vraiment avoir des conversations riches en français. Pas seulement toujours les mêmes choses de, par exemple, des simulations de je vais acheter quelque chose. Non, des conversations profondes.
Oui, peut-être des conversations guidées.
Oui.
Conversations où on peut, voilà, donner un thème, etc.
Voilà.
Non. Bon, pas, bien sûr, ne pas forcer. Voilà, parce
Oui.
que, voilà, on ne force pas, hein, on ne force personne à parler. Mais proposer, voilà, proposer des moments de conversation et d'écoute.
Exactement, de conversation et d'écoute. C'est très bien. Oui, donc j'ai vraiment hâte. En plus, donc comme je l'ai dit, les dates, c'est en juin, du 17 au 21 juin. Et le 21 juin en France, c'est la fête de la musique. Donc
Oui.
ça sera un jour très spécial à Pau.
Oui, c'est vraiment génial, la fête de la musique dans toute la France. Mais à Pau, comme je l'ai dit, comme c'est une ville à taille humaine, voilà, on peut faire le tour, et c'est vraiment convivial. On explique ce que c'est que la fête de la musique.
Oui, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là ou qui nous regardent qui ne savent pas exactement ce que c'est. Ils entendent musique, donc ils comprennent qu'il y a de la musique, mais peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est. Donc la fête de la musique, c'est quand on est c'est le jour. Le 21 juin, précisément, j'ai perdu Astrid. Donc, j'espère qu'elle va revenir, mais je vais expliquer ce que c'est que la fête de la musique. Donc, c'est le 21 juin, précisément. Et ce jour-là, en France, tout le monde peut aller jouer de la musique, peut jouer de la musique dans la rue. Donc, n'importe qui. Peut aller chanter, peut jouer du violoncelle, peut jouer de la musique dans la rue. Et il y a beaucoup de concerts, c'est très festif. Et c'est un jour qui est vraiment, oui, très festif, très joyeux. Voilà, Astrid est revenue.
Oui, je
Et
suis là.
j'ai
Je sais
J'ai
pas.
exp...
Oh, pardon.
Oui.
Oui, je sais pas ce qui s'est passé.
Oui, pas de problème parce que j'ai pu expliquer ce que c'était la fête de la musique. Et d'ailleurs, Astrid est musicienne.
Oui.
Elle joue du violoncelle et quand c'était la fête de la musique, quand on était petit, tu as joué du violoncelle dans la rue.
Oui, c'est vrai,
Ouais.
oui. Mais dans la rue, dans les parcs,
Ouais. Pour la fête de la musique. Donc c'est vraiment n'importe qui peut aller jouer de la musique, n'importe où.
oui, d'ailleurs, s'il y a des musiciens dans le groupe, on peut peut-être faire quelque chose. Parce que dans le groupe d'octobre, on avait une violoniste.
Oui, ça c'est une idée, oui. C'est une idée à... oui. À approfondir.
Voilà.
Alors pour terminer cette conversation, Astrid, c'était passionnant. Juste, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de parler français, qui a peur de... Enfin, qui comprend le français, mais qui a... Parce qu'on a eu... C'est quelque chose qui arrive souvent. Je pense que ton mari aussi a peut-être un peu la même expérience. Et aussi à Pau, au début, quand on a commencé la semaine, il y avait beaucoup de participants qui avaient un peu peur de parler français. C'est normal. Ou de faire des erreurs, ou d'hésiter, ou... de ne pas se faire comprendre. Alors toi, quelles seraient tes... Parce que toi, tu as beaucoup d'expérience avec les langues, quels seraient tes conseils?
Je pense que quand on est prêt à parler, on parle. Il ne faut pas se forcer ou être stressé là-dessus. Il y a un moment où on commence à parler un peu comme un bébé, voilà. On commence à parler et quand on est prêt, on parle et il faut pas avoir peur. Si on a peur de parler, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt. Voilà. Donc, il faut attendre. Et je dirais, par exemple, mon mari, pour reprendre l'exemple, je ne pense pas qu'il a peur de parler. Je dirais que, en fait, quand on a peur de parler, je pense que c'est un bon signe parce que, on écoute plus. En fait, le premier stade, c'est d'écouter. D'écouter et d'être bien dans sa peau en étant passif, enfin passif dans la conversation, mais actif dans écouter la langue, essayer de comprendre.
Moi, c'est ça.
Donc je pense que voilà, il y a pas de peur à avoir. Et puis, aussi, quand on est prêt, bah, on va faire des fautes. Ça, c'est normal. On ne peut pas parler parfaitement. Encore, pour reprendre l'exemple du bébé, c'est pareil avec un bébé. Il va faire plein de fautes. Ou même quand on est enfant, on fait des fautes. Même quand moi, je fais encore des fautes en français. Donc, oui, il faut essayer de ne pas avoir ce culte de la perfection. En fait, je pense que de toute façon, dans une langue, il n'y a pas de perfection. La langue évolue, voilà, on fait des fautes, c'est pas grave. Du moment qu'on est compris, et puis c'est un peu comme quand on apprend à skier, on tombe, on apprend. Je me rappelle dans certaines situations, j'essayais de dire quelque chose et la personne ne me comprenait pas. Donc ça, c'est un moment assez de... Eh bien, j'ai beaucoup appris de ces situations. Donc, c'est ça qu'il faut penser, en fait. C'est que, voilà, quand on fait une faute, on apprend. Voilà.
Exactement, on apprend de ses erreurs.
Exactement. Donc, il n'y
Ouais.
a pas à avoir peur de faire des fautes. Il faut faire plein de fautes.
Ouais. Donc faites plein de fautes, faites plein d'erreurs, pas de problème.
Oui. Sinon, on n'apprend pas.
Et pour le mot final, pour vraiment terminer, qu'est-ce que tu dirais aux participants, ou enfin non, plutôt aux participants potentiels ou aux membres de notre communauté qui hésitent encore à aller à Pau en juin cette année 2024? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Alors, je dirais déjà, faites attention parce que là, comme tu l'as dit l'année dernière, on a dû dire non. Alors, on avait du mal à dire non. Voilà. Mais comme tu le dis, on veut le garder. Voilà, on veut que ce soit un petit groupe de 10 personnes. Donc, surtout, si vous hésitez, n'attendez pas trop parce qu'après, il est possible qu'on n'ait plus de place. Voilà. Mais sinon, je pense que, voilà, comme on l'a dit, là, pour faire un petit résumé, ça vous fera connaître la France, vous faire se faire sentir un peu comme un Français, connaître les autres personnes, les autres French learners, dans un moment de convivial, de détente, mais aussi où on apprend beaucoup. Voilà, vous allez progresser énormément. Je pense que tout le monde l'a dit pour ceux qui sont venus en octobre. Voilà, ils ont fait beaucoup de progrès mais toujours voilà, en rigolade, quoi. Enfin...
En s'amusant, en
Voilà,
riant,
on
avec
s'amuse.
beaucoup d'humour, mais c'est vrai que la progression a été assez fantastique en une semaine. On a vu vraiment les progrès de chaque participant. C'était incroyable. Très bien, Astrid. Merci beaucoup pour cette conversation. J'espère que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, vous avez aimé cette conversation en famille avec ma sœur. J'avais déjà reçu mon cousin Vincent, qui habite aux États-Unis et que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas encore vu dans la pause café. Mais là, j'étais vraiment très heureuse d'avoir enfin ma sœur,
Oui.
l'organisatrice de Pau. Et je vais mettre dans la description le lien vers la page pour réserver votre place pour Pau 2024. Alors, cliquez sur le lien dans la description. Et puis, je vais mettre aussi des informations si vous voulez retrouver Astrid dans le monde fabuleux d'Internet. Je vais mettre des informations. Et encore une fois, Astrid, j'étais très heureuse de ce moment avec toi.
Merci Alice.
Merci, à bientôt, la communauté.
Au revoir.
Au revoir.